Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mais c'est la merde, l'Hollywood.
Si, Hollywood, c'est un peu la merde.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine s'intéresse à un projet avorté comme il y en a tant dans la grande et belle légende du ciné, sauf que tous n'ont pas eu le droit à un documentaire entièrement consacré à leur histoire. Il faut dire que rares sont les films jamais aboutis à se trimballer une aura mystique à la mesure de celle qui entoure l'adaptation du roman Dune qu'a failli signer Alejandro Jodorowsky dans les années 70 et qui est au cœur du docu de Frank Pavitch, très justement intitulé Jodorowsky's Dune, qui sort enfin au cinéma chez nous 3 ans après sa sélection à Cannes en 2013. Pour en causer autour de la table ici autant que 4 augustes émissaires de la maison Atreides, Rafik Djoumi, salut Rafik.
Gloire à toi, Boisic Rosec.
C'était magnifique. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
Arnaud Bordas, salut Arnaud.
Salut Thomas.
Et Alexandre Bravo, salut Alex.
Buenas tardes.
Non, c'est pas possible, allez, c'est Nos Ciné, épisode 43 et c'est parti.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
C'était donc une imitation lamentable d'Alejandro Jodorowsky par Alexandre Hervault. Jodorowsky Dune, vous l'avez compris, mais je le redis pour ceux au fond, à côté du radiateur qui suivent pas, nous raconte l'alléchant projet que concoctèrent au mi-temps des années 70 le producteur français Michel Sédoux et le réalisateur chilien Alejandro Jodorowsky, adapté le monument de la SF qui est la saga Dune de Frank Herbert, un classique du genre. Ils embauchent alors les plus grands artistes du moment pour en concevoir l'univers, à savoir Moebius, Giger, Dan O'Bannon, Pink Floyd et Magma à la BO, rien que ça, et ils prévoient d'offrir des rôle à David Carradine, Salvador Dali, Mick Jagger ou encore Orson Welles, que du lourd, mais la chose ne se fera jamais. Et c'est cet échec légendaire que nous raconte le documentaire de Frank Pavitch. Ça, c'est la BO qu'a composé pour le documentaire le talentueux Kurt Stenzel, documentaire que nos amis ont vu, histoire qu'ils connaissent bien. Déjà, un mot sur le film de Pavitch en lui-même. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Rafik?
Alors déjà, un petit coup de gueule, puisque donc ça fait quelques années, plusieurs années même, que ce projet de documentaire devait être développé en France, pays donc qui est à l'origine du projet Dune, mais pays également qui est totalement infichu de regarder sa propre culture en face, et donc ce genre de projet n'a jamais pu se monter. Donc il faut que, encore une fois, que ce soit des Américains qui viennent nous faire la leçon et nous dire « Eh, vous savez, les Français, il s'est passé des choses merveilleuses chez vous. » Voilà. Voilà. Sinon, globalement, le documentaire, je suis surtout content qu'il existe, parce que maintenant, on n'aura plus à justifier nos délires quand on parle aux gens de ce projet qui, pendant longtemps, on en a fait tous l'expérience autour de cette table, quand on commençait à en parler en soirée, les gens nous regardaient avec des hurons d'étonnement, du genre « Il faut arrêter le vin, là. »
Ça relève du fantasme.
Voilà. Donc, merci pour le documentaire d'exister. Il y a quelques faiblesses sur lesquelles on reviendra peut-être après.
Stéphane.
Ouais, bah si tu mesures la qualité d'un documentaire sur le sujet déjà de base, c'est un documentaire d'exception effectivement à ce niveau-là. Le fait que ça recense tout ça avec Jodorowsky qui est encore vivant et bien vivant avec malgré ses 87 ans quoi.
Et qu'Alexandre Hervault imite à la perfection.
Alexandre Hervault imite à la perfection, mais avec 40 ans de moins, 50 ans de moins même. Donc ouais, c'est là-dessus c'est super. Ils sont allés chercher des gens qui sont plus avec nous malheureusement, comme Giger.
Moebius,
voilà. Et je sais pas si Moebius apparaît pas. Il n'apparaît pas dans le documentaire,
non,
il me semble.
Non,
voilà.
Ils en parlent,
ils montrent le travail.
On voit ses dessins.
Voilà. Et donc là-dessus, c'est assez et c'est un documentaire assez touchant parce que Jodorowsky apparaît tel qu'en lui-même, c'est-à-dire que même 30 et 40 ans après, en fait, tu le vois qu'il est encore affecté par le fait que le film ne s'est pas fait par certains moments. Tu le vois qu'il est encore, il a encore le feu pour ce qu'il a créé, qu'il a mis en place avec tous ces artistes autour de lui, et tu vois que le type n'a pas changé d'un iota là-dessus, parce qu'il appelait, enfin ce qui est assez génial, c'est qu'il appelle le film, il l'appelle son prophète, le prophète, ça devait être le prophète du cinéma de science-fiction tel qu'il n'existait pas à l'époque. Et moi je trouve ça un peu maladroit dans le film que il force un peu le trait en parce que évidemment que le film, enfin que le projet était influençable, enfin a influencé, pardon,
influent
pardon, voilà. On a un peu bu. mais après, de là à mettre absolument tous les films de SF dedans, c'est jusqu'à certains extraits un peu étranges.
C'est pas une telle exagération, mais je sais pas si on peut y revenir tout de suite, mais moi je pense que c'est justement un des points forts du documentaire que de rappeler à quel point ce projet a été déterminant pour ce qui allait se passer ensuite dans le cinéma de SF anglo-saxon, ce qui d'ailleurs rend le truc encore plus douloureux.
Si vous rappelez à quel moment on se place dans l'histoire
du cinéma, on est au début des années 70.
Dans les années 70,
voilà.
Il n'y a pas eu Star Wars.
Le seul projet vraiment délirant que Hollywood ait pu connaître, c'était La Planète des Singes, qui était produit par Arthur P. Jacobs. Arthur P. Jacobs qui voulait adapter Dune aussi, avant que les droits ne lui échappent et que Sedou les récupère sur les conseils de Jodorowsky, qui avait eu une espèce de vision à l'époque. Tu vois, adapter Dune, il n'avait pas lu Dune, il ne savait pas ce que c'était. En réalité, il était entouré de gens qui baignaient dans la SF, donc il avait forcément entendu parler de Dune. Et Jodorowsky, qui ne vient pas de ce milieu-là, hein, qui est quelqu'un qui vient du théâtre expérimental chilien, etc. Donc, baigne dans une espèce d'agitation, d'agit-prop qui est faite par tous ces auteurs de BD qui vont marquer l'histoire, hein, que ce soit les Moebius, les Druyer, etc.
Mais parce qu'il était proche de la bande de Metal Hurlant, tout simplement.
Il était proche d'associés. Il va plus tard être le scénariste de la saga de l'Incal, etc.
Puis il n'y a pas eu que Metal Hurlant.
Avant, il y a eu Pilote aussi.
Oui, Pilote aussi.
Tous ces gens-là ont démarré.
Tout ce que vous commencez. Oui.
Et il y a deux aspects. Alors, un sur lequel le documentaire insiste, qui est donc que ce projet, effectivement, ne s'est pas fait, mais les majors hollywoodiennes de l'époque l'ont vu passer. Et donc, se sont dit, il se passe quelque chose dans le champ culturel, il va falloir qu'on soit attentif. Et ça, c'est vrai. Je pense qu'ils n'insistent pas assez, mais il est évident qu'un projet comme Star Wars n'aurait jamais été greenlighté à la Fox s'il n'y avait pas eu le projet Dune avant.
Oui, c'est pas ce que je remettais en question. Hein. C'était plus les points spécifiques comme quoi Star Wars aurait repris là-dedans, en fait.
Ah oui.
C'est quand même les liens qui sont faits dans le montage, hein,
oui,
c'est ça que je voulais dire.
Mais le fait est que Lucas s'inspirait du roman aussi.
Bien sûr, de Dune, ouais, bien sûr.
Et il y a un personnage qui n'est pas assez mis en avant dans le documentaire et qui, pour moi, est un personnage clé. J'avais eu la chance de rencontrer Jodorowsky il y a un peu plus d'une dizaine d'années. On avait parlé de ce bonhomme qui est Dan O'Bannon. Oui.
Quand même, ils en parlent.
Oui, mais justement, il est crucial dans l'influence que va avoir le projet Dune sur la production hollywoodienne.
Ils en parlent après avec Alien, tout ça. Et effectivement, moi je trouve que c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus agréablement surpris dans le docu. C'est justement cette manière de pas seulement nous dire, voilà, on va vous parler d'un rêve complètement fou qui a avorté, qui s'est fracassé contre le réalisme du monde du cinéma. On va vous montrer aussi et évoquer les retombées qu'a eu cette œuvre qui n'a pas existé. Qu'elle a eu sur le cinéma de science-fiction de cette époque-là. Et bon, il y a quand même des passages avec Dan O'Bannon. Il parle de quand il était à Paris, qu'il écrivait le scénar, tout ça. Et c'est vrai que Dan O'Bannon, ça a été un personnage aussi, du Dark Star de Carpenter au Alien, au Total Recall de Verhoeven, en passant par le Alien de Ridley Scott. Ça a été un personnage majeur de la science-fiction.
Sur lequel, d'ailleurs, le Ridley Scott, sur lequel on retrouve Giger et Moebius.
Ouais, mais voilà, mais ça, il le montre clairement. Que toute l'équipe artistique, Alien n'aurait jamais eu cette gueule si Dune de Jodorowsky n'avait pas existé. C'est toujours paradoxal. Si le projet n'avait pas existé. Et c'est vrai que là-dessus, Jodorowsky a été totalement visionnaire. Et c'est un des rares exemples, je pense... Parce que c'est vrai, Rafik disait, il venait pas de là, il venait pas de ce milieu-là, Jodorowsky. C'est plus une sorte de rêveur fou, quoi, Jodorowsky. Et c'est un des rares exemples justement de ce genre de personne qui aura marqué son époque sans pour autant avoir créé l'objet de. Avoir réussi à mener à terme son projet, quoi.
Alexandre, Alejandro, je ne sais plus.
Alejandro, si. Je suis très content d'être ici ce soir.
Sérieusement,
je ne vais pas revenir sur le. Je vais revenir sur le documentaire en lui-même. On ne parle pas du projet du film de Dune de Jodorowsky. Sur le documentaire en lui-même, je trouve que même s'il y a eu des raccourcis qui ont été faits, comme l'a signalé Stéphane, etc., je pense que formellement et tout, c'est un bel objet. C'est vrai que c'est très dommage que ce ne soit pas été produit en France alors qu'on avait les moyens, etc., de le faire et que ce soit les États-Unis qui se soient un petit peu manifestés pour le faire. Je pense que ce qui est assez intéressant de signaler, c'est qu'on est dans une espèce de période où je pense que c'est la multitude d'informations qu'on trouve sur le net qui permet ça, mais on est dans une période où il y a énormément d'explorations, de projets qui n'ont jamais eu lieu. Alors, ça fait quand même des années qu'il y a des bouquins sur des films coincés en development hell ou qui ne voient jamais le jour, etc. Mais pas plus tard que cette année, enfin 2015 pardon, il y a eu un film qui avait été financé via Kickstarter qui s'était intéressé au long développement du Superman avorté de Tim Burton, oui, voilà, avec Nicolas Cage, etc. En ce moment même, au moment où on vous parle, il y a sur Arte une série documentaire de Toret, voilà, qui revient sur des projets de films qui n'ont jamais eu lieu. Ça va aussi bien de films de Zanavicius que de John Landis, etc.
Projet que nous avions proposé à Arte il y a 3 ans d'ailleurs.
Castille au passage. Et donc voilà, on est vraiment en ce moment en pleine période de retour en arrière, mais pas de retour en arrière au sens nostalgique à la con. Mais
c'est
de l'archéologie, de voir qu'est-ce qu'on aurait pu avoir. Et je trouve ça vraiment fascinant comme exercice. C'est-à-dire que certains pourraient dire que c'est peine perdue, on s'en fout du passé, faisons table rase, on s'en branle. Mais non, c'est hyper passionnant parce que non seulement on se rend compte qu'on est passé à côté de potentielles perles ou de potentielles catastrophes, parce que pour moi, le Superman de Tim Burton aurait sans doute été horrible, mais fascinant. Et du coup, avec ce jeu de Ruskis Dune, on se rend compte qu'effectivement, comme on l'a dit, ça a infusé dans plein de projets différents. Ça a clairement eu une influence involontaire ou pas. Et je trouve que le documentaire en lui-même se démerde très bien. Bon, Jodorowsky, c'est un très bon client, même si on comprend un mot sur deux de ce qu'il dit, quelles que soient les langues qu'il utilise, à part l'espagnol. Mais voilà, ça reste un film qui a été... moi, formellement, dans le film, ce que j'aime beaucoup, c'est l'animation, par exemple, des storyboards, oui, qui est extrêmement bien mis en image. Faut rappeler que tout le film a été donc dessiné par Moebius, etc., et que le documentaire a pris vraiment à cœur de rendre justice du mieux possible de ce qui avait été dessiné à l'époque. Et bon, pour un public des années 2010, et c'est pas ridicule. Enfin, je veux dire, ça a vraiment de la gueule. Et même quelqu'un qui serait pas forcément ni passionné par le réalisateur Jodorowsky, ni par Frank Ebert, moi personnellement, j'ai jamais lu Dune, je sais, j'ai honte, frappez-moi.
Tu devrais.
J'ai très envie de le lire, surtout après vous avoir entendu. Mais le projet d'enquête, c'est presque un making a murderer de Netflix, où on redissèque un fait divers des années plus tard, version culturelle. Et je trouve l'exercice fascinant.
Justement, c'est sur ce plan-là, je pense qu'il y a une faiblesse dans le doc qui, en fait, s'intéresse au projet Dune, mais pas au contexte culturel qui l'a fait germer. C'est ce qui ne serait pas produit, justement, si le doc avait été français. C'est-à-dire que le caractère identité française du projet n'est pas pris en compte. La preuve, c'est un documentaire qui donne beaucoup la parole à des gens qui n'ont aucun rapport avec le film, oui, qui sont des réalisateurs américains contemporains, des blogueurs, des gens d'internet,
citons-les carrément, hein,
Nicolas Winograd,
voilà. C'est des gens qui sont censés se réclamer de son cinéma, et bon, faut chercher
loin.
Non, mais voilà, on a effectivement Moriarty de Ain't It Cool News, en gros toute une galaxie un peu geek internaute. Bon, très bien, eux ils sont là pour dire oui, c'est le projet qui aurait changé la SF, mais ils parlent encore une fois d'un point de vue anglo-saxon. Alors que si j'insistais sur le personnage de Dan O'Bannon, c'est parce qu'il est la preuve qu'il y a bien un souci entre les rêveurs et les pragmatiques dans la fabrication de ce type de cinéma. C'est-à-dire que Dan O'Bannon, il a extrêmement souffert de l'échec de ce projet. Je ne sais plus si c'est dans le doc c'est dit, mais il a quand même fait un an dans un HP en France, quoi. Enfin, il était super mal en point. Il a été hébergé par Moebius et Jodorowsky pendant un moment après ça, parce qu'il n'arrivait pas du tout à s'en remettre. C'est à cette époque, effectivement, qu'il a écrit pratiquement toute sa carrière, puisqu'il a lancé les pitchs en même temps de Alien, de Total Recall, de Minority Report, enfin bon, en gros tout.
Tout ce qu'il fera par la suite sur 20 ans.
Et tout en essaimant derrière lui, hein, parce que si on regarde un film comme Total Recall et qu'on le rapporte au BD de la saga de l'Incal, on voit bien que ces projets ont la même origine culturelle. C'est-à-dire que Eden O'Bannon, il était fasciné par ce groupe de rêveurs dans lequel il baignait, par l'incroyable déferlement d'idées nouvelles qu'il y avait. Mais d'une certaine façon, ils avaient du mal à les concrétiser. Et c'est lui qui est allé patiemment les concrétiser sur le terrain à Hollywood. C'est pour ça que je pense que le doc aurait dû plus insister sur lui, parce qu'on aurait compris à travers lui qu'il y a un problème culturelle, nationale, quoi. C'est-à-dire que la limite de la rêverie SF française, elle est là. Elle est dans le fait que oui, on peut rêver ces choses-là, mais quand il s'agit de les fabriquer, les protestants sont plus forts que les catholiques.
Pas tous en même temps, par contre.
En l'occurrence, les protestants ne l'ont pas fabriqué, quoi, hein, parce que c'est là où s'arrête le rêve. Quand les financiers américains disent non. Tous les studios leur disent c'est brillant ce que vous avez fait, mais on ne peut pas le faire.
Mais ils ont récupéré tous les restes du cadavre pour faire les films.
Après, il faut aussi remettre un petit peu la problématique dans le contexte. C'est quand même tout le film s'articule autour de Jodorowsky, sa vision. Et effectivement, je suis d'accord avec toi sur Dan O'Bannon, mais le souci c'est que, un, il est mort. Deux, ils font parler sa veuve et des bandes vidéo. Donc, même si le réalisateur Frank Pavich était un intervieweur hors pair, je pense qu'il aurait beaucoup de mal à faire arracher à Jodorowsky l'idée même que, tout simplement, Dan O'Bannon était la personne qui allait pouvoir faire concrétiser ça. Parce que le truc, c'est que ce que tu vois dans le documentaire, qui est assez intéressant, c'est, tu vois, le sacrifice de Jodorowsky jusqu'à, par exemple, la façon dont il a traité son fils. Et la façon, enfin, tu vois la relation aujourd'hui où tu as carrément le fils qui devait jouer donc le rôle du jeune Atreides, qui explique qu'en gros c'était sa vie à l'époque. En fait, il a passé un an à s'entraîner sur le projet pour être pour jouer le rôle de
Paul Atreides.
Voilà. Et que c'était hyper drastique. Et que ça flinguait leur relation en fait pendant des années, quoi, entre lui et son père, et qu'aujourd'hui il a tu comprends à demi mot qu'il lui a plus ou moins pardonné, que c'est son père et qu'il l'aime, mais que bon, voilà. Et même Jodorowsky de son côté, enfin le père dit oui, mais c'était ma vision, c'était comme ça. Et tu sens aussi qu'il y a des problèmes de compréhension, c'est-à-dire que il y a par exemple un truc qui est dit entre les lignes dans le documentaire, c'est qu'à un moment donné, Jodorowsky a un problème avec les studios parce qu'il leur dit « je vais faire un film de 12 heures ». Et si le film doit faire 12 heures, il fera 12 heures. Et en fait, les mecs disent « on peut pas faire un film de 12 heures, qu'est-ce que tu racontes ?» Et en fait, tu sais que Jodorowsky voulait pas faire un film de 12 heures, c'est pas ça. La question n'était pas là. C'était « je suis un artiste, foutez-moi la pelle ou faire foutre ». Et en gros, c'est là où tu comprends qu'ils se sont aussi tiré une balle dans le pied.
Oui, bien sûr.
Voilà, c'est pas que Hollywood qui a dit non, vous êtes trop fou. Voilà.
Bien sûr, les studios hollywoodiens sont pas non plus présentés comme des abrutis. Et puis même le film en l'état, enfin quand on regarde effectivement les storyboards de l'époque, il était impossible à mettre en œuvre avec les moyens qui leur étaient offerts. Mais de voir que justement comment ce cadavre a été dépecé et reconstruit.
Exploité.
Voilà. Encore une fois, je trouve que le doc n'insiste pas assez sur les voyages perpétuels que Ridley Scott a pu faire, la façon avec laquelle il a fréquenté de très près cette bande-là et comment son film Alien s'est vraiment basiquement fait à Paris avec Giger qui était présent, voilà, avec Moebius qui était là pour dessiner les trucs, et évidemment toutes les BD des humanoïdes associés de l'époque étaient presque un fil à suivre pour construire un truc comme Alien, Blade Runner et son rapport avec The Long Tomorrow, et donc je pense qu'à un moment donné, ce qui me manque moi personnellement, c'est ça, c'est cette idée: les Français n'ont pas été capables parce qu'ils sont français. et ils avaient cette espèce de perle vive entre les mains, mais il leur fallait un artisan, en fait, et non pas un artiste pour pouvoir mettre ça sur pied.
Il aurait peut-être fallu avoir Jodorowsky comme le créateur, quoi, et un réalisateur, un cinéaste, quoi.
George Lucas pour faire avancer la machine, oui, bien sûr, comme un entrepreneur.
Je voudrais quand même qu'on dise un mot du vrai film Dune qui est finalement sorti au cinéma, qu'on a tous vu. Malheureusement, ils en parlent effectivement, suite David Lynch avec Sting, auquel personnellement j'évite de trop penser. Quel regard vous portez dessus autour de la table, Stéphane?
Le film est mauvais maintenant. Enfin, c'est un ratage par rapport au roman. C'est aussi un film un peu de son époque. C'est un peu le truc aussi, c'est que le film a pris cher avec les années aussi. Là où je trouve que c'est un peu malhonnête dans la façon dont il est traité dans le documentaire, c'est qu'ils prennent des extraits volontairement ridicules appuyer. Et il y a quand même des réussites dans le film. Enfin, des images inédites à l'époque où le film a été fait par la force. Force des choses.
Le documentaire n'explique pas forcément l'espèce de jeu de rebond qu'il y a eu, puisqu'en fait pour revenir brièvement sur le truc, Dino De Laurentiis avait les droits de Flash Gordon dans les années 70 qui devait faire avec Fellini. Quand Lucas a voulu adapter Flash Gordon, c'est là qu'il s'est aperçu que les droits étaient à Dino De Laurentiis et qu'il a dû créer sa propre mythologie avec Star Wars. Après le succès délirant de Star Wars, tout d'un coup, Laurentiis se réveillait en disant « Mon Dieu, je suis passé à côté du train. » Donc il s'est dépêché de produire en catastrophe un Flash Gordon qui reste dans toutes les mémoires comme un des plus grands, voilà, grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la SF. Voilà. Mais en même temps, de Laurentiis, il avait, comme des autres, entendu parler de ce projet Dune. Et ce qu'il a ramené du coup à Dune, c'était cette idée d'avoir manqué un wagon et qu'il fallait absolument qu'il le rattrape. Et le projet Dune a été finalement fait de la même façon qu'un Flash Gordon. Genre, il faut vraiment qu'on se dépêche de le faire parce que c'est ce que les gens réclamaient il y a 10 ans déjà. Et bon, et ça se sent que c'est un truc qui a été poussé à toute vitesse.
Arnaud.
Moi, j'ai un souvenir assez éloigné du film parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu. Je me rappelle juste avoir pas aimé parce que j'avais vu.
C'est déjà pas mal.
Non, mais j'avais vu ça quand j'étais ado. Je ne sais plus, je devais avoir 17 ans, parler un truc comme ça. Et j'avais déjà lu le bouquin 2-3 ans avant de Frank Herbert. Donc, moi, ça m'avait paru une réduction totale du livre. Quoi. C'était. Alors, je pense que. Quand on voit le documentaire, la version de Jodorowsky aurait été une trahison totalement folle, quoi, du bouquin d'Herbert. Quoi. Mais ouais, le Lynch, c'était vraiment, on avait l'impression de voir une trahison
qui proposait tellement d'idées nouvelles.
Oui, voilà. C'est pour ça que j'ai une trahison folle, quoi. Voilà, ouais. Ça aurait été un truc, autre chose, quoi. Ça aurait été.
Alexandre, j'aurais juste peut-être qu'on dise un mot de cette fameuse Bible, ce fameux storyboard que toi tu as eu l'occasion de feuilleter.
Tout à fait. J'étais à Bordeaux l'automne dernier. Bordeaux, où il y avait une exposition au CAPC, Centre d'art contemporain bordelais, consacré à Jodorowsky pendant plusieurs mois. Et parmi toutes les œuvres exposées, il y avait tous ses dessins à son époque chilienne dans la presse underground locale, c'était fabuleux. Il y avait tous ses films, évidemment, El Topo, etc. Et il y avait une partie consacrée à son projet Dune. Et dans la scénographie de l'exposition, c'était incroyable. C'était vraiment comme si c'était le monolithe noir de 2001. Il y avait la Bible, qu'on voit donc dans le documentaire dont on parle. La Bible qui était sous verre, dans une espèce de pièce à part, comme si c'était vraiment le truc.
Il n'existe que deux exemplaires.
C'est
en fait.
Ça. Voilà. Donc c'était ça, un des deux.
Il y avait plein d'autres exemplaires qui ont été perdus dans les studios américains, apparemment.
En tout cas, un des moins de 5 exemplaires qui restent au monde, de ce truc-là, qui était là. Et évidemment, comme je disais, sous verre. Donc on peut absolument pas le feuilleter. Mais ne serait-ce que quand tu as vu le documentaire à l'avant et que tu vois cette somme-là épaisse comme 3 bottins, 3 annuaires, voilà, comme ça.
C'est que les gens ne savent plus ce que c'est qu'un annuaire.
C'est ça, c'est épais qu'on va dire 15 iPhone. iPhone 3. du coup.
Un bouquin énorme, quoi.
Un bouquin énorme, quoi.
Vous avez compris ?
Hein ? Comme ma bite. Et bref, c'est complètement. Et du coup, c'est complètement fou parce que il y a une sacralisation du truc. Non mais c'est ça, c'est que à une époque où tout est dématérialisé, etc.
Exactement.
Bref, j'étais super content d'être à Bordeaux et voir le truc.
C'est super. Merci Alexandre. Je sais même pas si on va faire les recos en fait. Je suis pas sûr. Allez, quand même, on va prendre un petit moment pour.
On peut enchaîner parce qu'il y a justement dans le documentaire une anecdote rapportée par Jodorowsky qui est intéressante et qui donne un peu aussi une idée des raisons pour lesquelles un projet comme ça
cette émission
ne pouvait pas se faire. Non, mais je vais passer de la bite aux fesses en fait, puisque donc elle porte sur les négociations périlleuses qu'il y a eu avec Dali, qui devait donc jouer le rôle de l'empereur. Et Dali était arrivé avec cette idée que l'empereur pourrait être assis sur un trône, mais un trône, c'est-à-dire des toilettes, en fait, qu'il aurait lui-même designé. Et donc Jodorowsky a accepté cette idée, qui était suffisamment folle pour rentrer dans son projet, à la condition qu'on puisse avoir un gros plan de Dali se torchant le cul. Donc il fallait qu'on puisse filmer l'anus de Dali en gros plan. Et il y a eu des négociations de malades autour d'un contrat très compliqué pour savoir si on devait ou non montrer l'anus de Dali et à quel prix ça allait coûter. Donc ça donne, on imagine un truc comme ça, c'est-à-dire les studios américains sont séduits parce qu'ils ont des concepts art magnifiques avec des vaisseaux sublimes, des décors extraordinaires, une histoire dingue, et ils ont ces deux mecs qui sont en train de se battre pour savoir si on doit avoir un gros plan d'anus ou pas. Je peux comprendre que le film ne soit pas
Dali, on comprend quand même aussi entre les lignes qu'il lui il donnait à Jodorowsky des défis. Enfin,
oui, pour voir jusqu'où il irait.
Voilà, pour voir jusqu'où il irait. Et à chaque fois, sa condition pour participer au film était un truc aberrant. Et on avait presque l'impression qu'il n'avait pas envie de le faire. Quoi,
bah, il voulait un mandalire dans.
Tout à fait. Il voulait un éléphant en feu aussi.
Ouais, oui, il voulait un éléphant. Une girafe en feu.
Une girafe en feu, tout à fait.
Pour conclure, quand même, on prend un petit instant pour des recommandations. Comme c'est la tradition, les traditions, c'est important. Autour de Dune, on conseille quoi, Rafik?
Ben, moi, je vais conseiller aux gens qui ne connaissent pas de lire la saga de l'Incal, hein, de Jodorowsky et Moebius, qui est d'une certaine façon les restes du projet Dune, hein, et dont la folie, en tout cas, du projet a été conservée, parce que faire une BD, quelque part, c'est peut-être plus facile que de faire un film.
Stéphane?
Ben, moi, Alex en a parlé un peu tout à l'heure, donc je vais conseiller sa bite. Non, pardon. Je vais conseiller effectivement les vidéos. Moi, je suis un sucker pour ces choses-là. Reviens, je suis en train de rattraper le coup.
Je crois que c'était un projet morné, moi.
Ouais, voilà. Mais, effectivement, les vidéos sur Arte, de Jamais sur vos écrans, de Toré, qui revient sur, avec Joe Dante, par exemple, sur Termiterès, ouais. Avec Gans sur Raon. Donc, pas mal de projets intéressants dont on apprend, en fait, ce que ça aurait dû être. Au moment où ça devait se faire, donc c'est gratuit, c'est sur internet, c'est sur YouTube, donc c'est super.
Allez-y, voilà. Arnaud.
Moi, j'avais choisi l'Incal, donc
Très bien,
voilà,
c'est bien l'Incal.
L'Incal. Ah non, c'est magnifique, super. Et puis, c'est surtout le moyen de voir comment quelqu'un qui avait un projet faramineux a fini par le recycler en un autre projet faramineux et qui est une bible dans l'histoire de la science-fiction, hein, tout genre confondu, quoi. Bref, mais non, moi, Marocco, ça va très vite. J'ai pensé à un autre grand projet avorté. C'est le bouquin qui était sorti qui vaut son pesant de cacahuètes et qui est tout aussi gros, je pense, que le storyboard de Jodorowsky. C'est le Kubrick, le Napoléon de Kubrick, qui était paru chez Taschen et qui est une mine d'informations, qui est un bouquin magnifique, relié en cuir,
énorme. Coûte assez cher.
Voilà, il y a tout le scénario dedans, toute la documentation de Kubrick. Voilà, si vous connaissez pas ce projet-là, qui était aussi un projet assez dingue et assez démiurge.
Sur le cadavre duquel a été fait un plus petit film qui est Barry Lyndon. Donc ça peut donner une idée.
Alexandre.
Alors moi, je vous conseille de suivre sur Instagram Alma Jodorowsky, la petite fille d'Alejandro, parce qu'elle est super bonne. Non, mais plus sérieusement... Plus sérieusement, on parle de Jodorowsky...
T'es plus jamais invité.
Pardon, excusez-moi. Plus sérieusement... Mais on parle de Jodorowsky tout à l'heure.
Vous faites ça à Libération, c'est ça que vous faites? C'est pour ça que vous vendez pas un canard.
C'est un scandale, monsieur Rozek. Moi, je suis pas venu ici pour entendre des choses pareilles.
Non,
juste. Il y a des gens qui ont des enfants autour de cette
table. Rapidement, juste, on parle de Jodorowsky un peu comme s'il était mort depuis tout à l'heure, mais on oublie qu'il a quand même signé un film il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 ans qui s'appelle La Danse de la Réalité, qui était hyper bien, qui était autobiographique, adapté d'un bouquin qui s'appelle La Danse de la Réalité, qu'on peut trouver en version. Enfin, ça a été traduit en français, c'est édité. Et il est en train de tourner une sorte de suite à ce film-là, qui s'appelle donc Poésie sans fin, Poésie sin fin, qui j'espère devrait. Voir le jour bientôt et sortir en 2017. Donc, conseil, allez voir, si vous ne l'avez pas vu, La Danse de la Réalité, son dernier film, qui est très bien.
Tu dis pas que des conneries comme quoi. Hein. On peut être étonné encore dans la vie. Merci à tous les quatre. Nos ciné, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Jules, à la technique et au temps que pour l'accueil. Désolé pour les gros mots, c'est pas grave. Dans une semaine, on parlera de Midnight Special de Jeff Nichols. D'ici là, comme toujours, vous êtes tout à fait libre de parcourir le web à la recherche de nos précédentes émissions sur Zoolander 2, sur The Revenant, sur Abbé César, sur Steve Jobs, sur Anomalisa et bien d'autres. Si vous tapez Nos Ciné dans un moteur de recherche, vous devriez tomber sur nous. Sinon, nosciné.com, c'est facile, ça marche aussi très bien. Profitez-en si vous en avez envie de nous laisser vos commentaires. Ça nous fait toujours plaisir, sauf si c'est pour parler de la bite d'Alexandre Hervaux. D'ici là, on vous dit à la semaine prochaine.
Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizi. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à William Scheller et à PNL. Disponible sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine!
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.